Yaya Salamé, vous recevez le président du groupe Les Républicains au Sénat. C'est lui qui, à droite, a porté la contradiction à Emmanuel Macron hier au Congrès de Versailles.
Bonjour Bruno Retailleau.
Bonjour Yaya Salamé.
Avec un Emmanuel Macron libéral économiquement et gaulliste dans son exercice du pouvoir, honnêtement, en écrivant votre discours hier, vous n'êtes pas un peu forcé pour trouver des critiques?
Non, pas du tout. D'ailleurs, l'exercice qu'il a fait hier était un exercice difficile. Il est un peu tombé dans le piège qui s'était lui-même tendu parce que à parler juste la veille de la déclaration de politique générale de son Premier ministre, il devait être très général, parce que s'il était trop précis, on l'aurait accusé d'aller empiéter sur le terrain de son Premier ministre.
Et du coup, vous l'avez trouvé trop général?
Trop long, trop flou, bien sûr.
Pourquoi trop long, trop flou? Est-ce que finalement, c'est pas aussi la manière d'Emmanuel Macron de se positionner contre François Hollande et donc d'élever le rôle du président?
Oui, mais on lui demande pas de se positionner contre, on lui demande de se positionner pour résoudre le problème des Français. Et finalement, hier, qu'a-t-on retenu? Il y a eu quelques bons passages de son discours, un peu de lyrisme, un peu de hauteur, ça ne nuit pas au débat politique, je trouve, en tout cas moi j'aime, mais en réalité, il a été précis uniquement sur les institutions.
Alors on va y aller.
Franchement, est-ce qu'on va redresser la France avec une réforme des institutions? Non, vous avez des pays qui se sont redressés, qui ont des constitutions très très différentes. C'est pas ce qu'attendent les Français. Les attentes des Français sont les solutions à leurs préoccupations du quotidien.
Alors avant la réforme des institutions, il y a cette petite phrase d'Emmanuel Macron. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est sur l'esprit. Il a appelé à en finir avec cette recherche incessante du scandale, avec le viol permanent de la présomption d'innocence et avec cette chasse à l'homme où parfois les réputations sont détruites.
Oui, je l'ai entendu cette phrase, je l'ai entendu. Je me suis dit, est-ce que c'est une phrase tirée de son expérience de la campagne électorale, où il aurait été bon à ce moment-là qu'il la prononce à l'époque, ou est-ce que c'est une phrase qui vise à se prémunir pour l'avenir? On a déjà, je crois, un quart du gouvernement, du premier gouvernement, qui n'a pas été reconduit parce qu'il était touché par un certain nombre de dossiers. Moi, je pense que effectivement, il faut faire très attention à la présomption d'innocence, elle est là, on l'oublie trop souvent, et au jour d'aujourd'hui, avec l'information continue, avec les réseaux sociaux, il peut y avoir des déferlements, des emballements qui ne sont pas sains pour la démocratie et ni pour la justice, je crois d'ailleurs.
Alors sur les annonces, d'abord la réduction du nombre de parlementaires d'un tiers d'ici un an, vous êtes pour ou pas?
Je suis pour, à la condition évidemment que ça puisse donner un certain nombre de moyens aux parlementaires. C'est pas la réduction en soi du chiffre, c'est le sens qu'on donne à cette réduction. Le sens qu'on donne, c'est qu'on sait très bien que le Parlement aujourd'hui, il est très affaibli. Et on le voit d'ailleurs avec Jupiter. Et c'est un des dangers. Il faut une opposition. Parce que
vous avez l'impression qu'il a des tentations hégémoniques, comme vous l'avez dit hier, des tentations autocratiques, Emmanuel Macron, de museler l'opposition?
De la museler, terme et forme. Mais en tout cas, bien sûr. Puisque déjà, les institutions, avec l'inversion du calendrier, désormais, les élections législatives ne sont qu'une réplique sismique de l'élection présidentielle. Donc on a une Assemblée nationale qui est accrochée à la locomotive présidentielle. Heureusement qu'il a le Sénat, parce que le Sénat, finalement, n'est pas issu de ce cycle présidentiel. Donc cette tentation, elle est là et je pense que lui-même la porte.
On verra après septembre quand il y aura une partie des sénateurs qui seront renouvelés. Il a confirmé qu'il introduira une dose de proportionnelle. On attend de savoir combien. Là aussi, vous êtes pour ou contre?
Non, moi je suis plutôt contre. Je vais vous dire très, très simplement pourquoi. Je pense que là où il y a proportionnel, il peut y avoir risque d'instabilité. Je préfère l'efficacité pour un gouvernement et un parlement. Enfin,
Vous ne pensez pas que le Parlement doit être plus représentatif? Mais il est temps.
Je comprends. On a toujours, si vous voulez, ce dilemme entre une très grande représentativité, mais qui pousse à la fragmentation. La France est très fragmentée. Et si vous représentez exactement cette fragmentation au Parlement, vous ne pouvez plus réformer, vous ne pouvez plus gouverner. Il y a une deuxième raison, c'est que comme il n'y a plus, si j'ose dire, de cumul de mandats, on aura des gens qui seront suspendus en l'air, encore plus hors sol. Des gens qui seront élus à la proportionnelle. Et les autres seront élus dans leur circonscription.
Emmanuel Macron a confirmé qu'on sortira de l'état d'urgence cet automne, sachant que la plupart des dispositions de l'état d'urgence rentreront dans le droit commun. Favorable ou pas?
Favorable. Vous savez que j'ai voté, moi, et le Sénat, mon groupe, les cinq reconductions. On sera la sixième. C'est d'ailleurs le Sénat qui a imprimé sa marque en termes de rehaussement du niveau de sécurité, des outils donnés d'ailleurs à l'État pour protéger les Français. Maintenant, le Sénat, c'est aussi la chambre qui veille aux libertés publiques. C'est notre tradition.
Et vous n'êtes pas inquiet sur les libertés publiques, justement?
Alors,
quand on voit que plusieurs des dispositions vont rentrer dans le droit commun.
Alors, justement, on sera très vigilants. Vous avez raison de le souligner. Nous sommes la Chambre qui doit veiller sur ces libertés publiques. Nous serons très très vigilants à ce qu'il n'y ait pas un déséquilibre entre le plus sécurité et le moins de liberté, notamment pour qu'il y ait un vrai contrôle du juge judiciaire.
Alors cet après-midi, Édouard Philippe va lire son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Vous, vous serez au Sénat. C'est Gérard Collomb qui lira le même texte pour les sénateurs. Il n'y aura pas de vote de confiance en revanche au Sénat. S'il y en avait eu un, vous auriez voté quoi ?
Ah, je ne l'aurais pas voté. Je n'aurais pas voté parce
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous auriez voté contre ou vous serez abstenu ?
Alors il aurait fallu l'entendre. L'abstention aurait été, si vraiment il aurait été très très bon, il avait été très très bon. Je pense qu'il y a besoin d'une opposition. Vous voyez, depuis des semaines, c'est tout juste si on ne nous demande pas de nous excuser d'être dans l'opposition. Mais fichtre, la démocratie, c'est quoi ? C'est l'existence, mais c'est l'existence quand même d'une opposition. C'est la possibilité d'une alternance. Vous vous rendez compte si on donne le monopole de l'opposition aux extrêmes, c'est, où en est-on ? Alors, Donc une opposition, c'est nécessaire pour la majorité. Je l'ai dit d'ailleurs en le regardant fixement au Premier ministre hier.
Ceux qui, chez les Républicains, voteront cet après-midi la confiance à Édouard Philippe, sont-ils des traîtres ?
Moi, je n'aime pas prononcer ce terme. Il est clair, en tout cas, que ceux d'entre nous qui ont décidé de rejoindre le gouvernement donc d'Édouard Philippe avec Emmanuel Macron ont planté un poire dans le dos à nos candidats qui se présentaient aux législatives. C'était une évidence. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit « je veux déstabiliser la droite ». Il y est parfaitement parvenu, évidemment.
Poignard dans le dos. Alors, reparlons d'un mot de la campagne présidentielle, puisque vous étiez le fidèle parmi les fidèles de François Fillon. Georges Fenech, membre des Républicains, sort un livre cette semaine qui imagine le général de Gaulle mis en examen, où il raconte sa vision de la campagne de Fillon. Il affirme que Fillon a menti, qu'il a menti clairement, sciemment à Alain Juppé, alors qu'il était totalement embourbé dans les affaires. Il aurait dit à Juppé, moi je veux bien retirer ma candidature, mais c'est Sarko qui ne veut pas, et lui affirme que Sarkozy n'a jamais dit ça.
C'est absolument faux. C'est d'ailleurs curieux parce que j'ai été au cœur de cette campagne, vous le rappeliez, jamais je n'ai vu M. Fenech au QG de la campagne, jamais. Comment alors aurait-il pu se prévaloir d'un certain nombre de confidences ? Non, c'est
il
faux.
Il affirme que Sarkozy bien n'a sûr. Jamais dit à Fillon.
Eh bien, j'affirme que c'est absolument faux et je ne veux pas passer plus de temps sur ce livre-là.
Et si on a besoin de comprendre, Nicolas Sarkozy a dit clairement à François Fillon, si, ne retire pas ta candidature.
Ça c'est... Mais non, en tout cas il ne m'a pas fait cette confidence. Il ne m'a certainement pas fait cette confidence. Et je peux vous assurer que depuis le départ, j'ai été, dès la fin du mois de janvier, j'ai vu qu'il n'y avait pas de plan B. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des rivalités, tout simplement, entre les différentes écuries. Et ce qui a tué ce plan B, ce sont ces rivalités. On le sait maintenant. Voilà. Pourquoi chercher d'autres coupables, d'autres boucs émissaires ? C'est parce que si on effaçait ce résultat légitime de la primaire, on retrouvait l'état précédent. L'état précédent, c'était un état de division entre
aujourd'hui, nos candidats. Aujourd'hui, la droite n'a jamais été aussi divisée. Est-ce que Bien François sûr. Fillon se sent responsable de ce qui se passe ?
Ah, j'imagine qu'il porte, bien sûr qu'il porte une partie de ce regret, une partie de cette déception, j'imagine.
Juste une partie. Pardon Bruno Retailleau, vous deviez gagner, c'était écrit comme ça, non mais, il a perdu, non mais, il n'a même pas été qualifié au second tour.
Vous ne pouvez pas, non mais bien sûr qu'il y a toujours, quand on perd, quand il y a un échec, on doit toujours se remettre en question et on doit toujours prendre une part des responsabilités. Maintenant, franchement, mettre la responsabilité sur un seul homme, non. Franchement, je pense qu'on est parvenu à plus de 20% au premier tour. Si tous mes amis politiques avaient fait une vraie campagne, on aurait éliminé Marine Le Pen, je le crois fermement, dès le premier tour. Donc je crois que c'est une responsabilité, bien sûr, comme il était le patron, donc il porte au premier rang cette responsabilité, mais de grâce, pas seulement. Il faudra justement, avant que nous procédions à de nouvelles élections, qu'on puisse débattre entre nous sur un nouveau projet, sur ce qui nous définit
Merci.
Maintenant et l'idéal qu'on veut porter,
Merci.
Nous, la droite et le centre.
Bruno Retailleau d'avoir été avec nous et belle journée.
Léa, je crois que vous avez battu un record. Juste après 8 heures, la fin de l'interview. On a entendu les bips à l'antenne. Merci Léa Salamé.